Donc je disais, je l'ai. Notre monde s'est accaparé un petit peu, on lui fait le reproche de s'être accaparé, de ce moment de Noël, pour en faire un petit peu une fête commerciale et où, il n'y est, où Dieu est absent. C'est bien triste. Et donc, mais nous aussi, on peut être entraînés dans tout cela, même inconsciemment. Hein. Et donc, le but, c'est ensemble de fixer notre cœur non sur... la météo, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, ni le menu, ni les rassemblements familiaux, ni les cadeaux, mais sur cet événement extraordinaire qui est l'incarnation du Messie. Il y a des chants qui ont été composés à cette occasion. Vous voyez de quoi je veux parler, c'est de ça qu'on va parler. On va parler des chants qui ont été composés pour cet événement unique. Et on terminera... ce que ce récit veut nous communiquer aujourd'hui à nous. Alors, lecture donc de Luc, chapitre 1, on va lire de 39 à 80. Luc, chapitre 1, verset 39 à 80. C'est la suite de ce qu'on avait vu il y a deux semaines. Évangile de Luc. Donc dans ce même temps, donc on suit l'annonce de la, on suit l'annonce de l'ange à Marie qui lui avait annoncé qu'elle allait être enceinte. Et dans ce même temps, donc Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de sa salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelèrent Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il y a dans ta parenté personne qui est appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes. Et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tout ce qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur, un salut qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Verset 80, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Alors, vous connaissez très bien ces textes. Est-ce que les personnes qui nous entourent les connaissent? Et je voudrais faire un peu d'apologétique pour nous ce matin, pour nous encourager, lorsqu'on nous interroge, à pouvoir défendre notre foi. Alors, j'ai qualifié ce beau texte d'une belle histoire, mais une histoire désenchantée. On n'est pas dans le monde des bisounours. Bon, ça n'existe plus maintenant, les bisounours. Mais vous voyez ce que je veux dire, un monde où tout est beau, où tout est parfait. Non, c'est une histoire qui s'est passée dans notre monde à nous, avec sa dure réalité. Mais c'est une histoire où le grand Dieu d'Israël est intervenu, et c'est cela qui change tout, l'intervention de Dieu ici-bas. Alors, repassons un peu cette histoire, les faits marquants. Dans le temple de Jérusalem, donc, un ange est apparu à Zacharie pour lui annoncer que sa femme âgée et lui vont avoir un enfant qui est consacré. Et Zacharie, vous le savez, on l'a vu la dernière fois, est incrédule. Il demande une preuve de cela et devient muet. Élisabeth tombe enceinte et cache sa grossesse pendant 5 mois. Mais Marie va lui rendre visite et cela va faire un petit peu sortir Élisabeth de sa cachette. Elle va pousser des grands cris. Hein. Béni es-tu d'entre toutes les femmes et le fruit des entrailles est béni. Comment la femme de mon Seigneur est-elle, la mère de mon Seigneur, excusez-moi, est-elle venue jusqu'à moi? On peut imaginer aussi les idées qui se bousculaient la Marie quand elle a appris cette nouvelle. Voilà, je vais être enceinte. Qu'est-ce que je vais devenir? On va me montrer du doigt partout. Je vais être la honte de ma famille, où vais-je trouver un refuge? Et on voit que l'ange avait indiqué une solution pour elle, une personne qui allait pouvoir la recevoir, la comprendre, l'accueillir, lui offrir l'hospitalité à la personne d'Élisabeth. Dieu avait tout. tout prévu. Et Marie va revenir au bout de 3 mois. Et c'est là certainement qu'à ce moment-là que Joseph, dans le récit de Matthieu, que Joseph découvre la grossesse de sa fiancée. Et là, on peut imaginer également cet homme complètement perdu, bousculé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle m'a trahi. Quelle est la solution? Et l'ange donc ne le laisse pas dans cette situation-là, mais il intervient. Non seulement pour lui dire que Marie que c'est vrai ce qu'elle dit, qu'elle va vraiment être enceinte par la vertu du Saint-Esprit, mais lui dire aussi que voilà, il faut qu'il l'accueille chez elle et que lui va avoir le rôle de père adoptif de cet enfant. On a une histoire qui est cohérente, qui se tient chronologiquement, tout se tient, tout s'articule bien, et l'on comprend ce qui se passe, et l'on comprend l'intervention de Dieu. À un moment, on trouve cette expression « Dieu se souvient ». Peut-être que vous avez remarqué ça dans le texte. On trouve cette expression « Dieu se souvient ». Est-ce que Dieu se souvient de sa miséricorde, verset 54, 72, Dieu se souvient de son alliance? Est-ce que Dieu aurait des trous de mémoire? Non, bien sûr, Dieu n'a pas de trous de mémoire. Mais on doit comprendre ici que Dieu intervient de façon imprévisible. Il est intervenu, il est apparu à Zacharie de façon imprévisible. Et cela, il n'envoie pas une manchette dans les journaux avant. Hein. Et c'est significatif dans nos propres vies. Peut-être qu'on est dans une épreuve, peut-être qu'on souffre. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais Dieu peut intervenir à n'importe quel moment. Et il peut renverser complètement la situation. Dieu peut intervenir d'un instant à l'autre. On doit conserver la foi. Et qui sont les auteurs des chants? Bon, c'est une question peut-être qui vous passe pas par l'esprit. Vous dites, c'est évidemment Marie et Zacharie, vous avez raison. Mais moi, je me suis posé la question, comment ils sont arrivés là, ces chants? Et puis, c'est ça, ils sont à tourner en grec, et ils parlaient pas grec. Comment tout ça, ça a pu se produire? On peut réfléchir et voir que Zacharie avait eu le temps, pendant qu'il était muet, tout ce temps-là, de l'attendre pendant les 9 mois de grossesse de son épouse, il avait le temps de repasser les choses dans sa tête, et il avait le temps de construire ce chant. Et pour Marie également, on la voit qui part et sur le chemin pour aller dans les montagnes de Judée, elle va retrouver Élisabeth. Là aussi, elle avait le temps de penser à tout ce qui lui arrivait et de composer ce magnifique chant. Et on sait que Marie a après été accueillie à son tour par l'apôtre Jean, qui a pris le relais du Seigneur. Et donc là, au contact de l'apôtre Jean, ce chant, bien sûr, a pu être mis par écrit et puis peut-être traduit dans la langue grecque que maîtrisait Jean. Et les chants sont des puissants moyens de mémorisation. Donc les chants on peut oublier des choses, mais les chants, on les oublie en dernier. Ce qu'on se souvient le mieux, c'est ce qui est communiqué par les chants. Dieu se souvient. Et pour les auteurs des chants, on peut facilement trouver des explications. Oui, ce sont bien les personnes concernées, d'autant que le Saint-Esprit était là pour les inspirer. Alors voyons maintenant un peu le premier chant, le chant de Marie. Il s'appelle le Magnificat. Hein, vous connaissez peut-être ça parce que il commence par ce premier mot mégalomino, hein, c'est en grec. Il a été traduit en latin par Magnificat. Donc on parle de Magnificat. Exalte, magnifie le Seigneur mon âme. C'est les premières paroles de Marie quand elle rencontre Élisabeth. Verset 47. Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Alors ça, c'est un magnifique verset. C'est le verset que j'ai choisi pour donner le titre au message. Je magnifie. Je me réjouis en Dieu, mon Sauveur. Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. La situation de Marie était lourde à porter. Elle avait, on peut dire, quelque chose de tellement grande responsabilité et tellement incroyable. Qui pouvait la comprendre? Pourtant, on peut l'imaginer joyeuse sur le chemin pour aller retrouver Élisabeth, sa parente. Verset 48. Il a baissé les yeux sur la bassesse de sa servante. Servante, c'est esclave, hein, c'est le mot qui correspond à esclave. Et Marie se voyait comme une esclave, mais en dessous des esclaves, la dernière classe des esclaves. C'était sa position qu'elle voyait devant Dieu. Et elle soulignait que la semaine dernière que c'était une époque où ben voilà la prospérité matérielle et la position sociale qu'on pouvait avoir pour eux, pour beaucoup de personnes, était le reflet de la position spirituelle qu'on avait devant Dieu. Mais on voit que pas du tout ici. Il a baissé les yeux sur la bassesse de sa servante. On le sait, le Seigneur a eu comme premier berceau une mangeoire pour les animaux, et Marie se devait pas la choquer. Je veux dire, elle c'était dans sa classe sociale, c'était possible et supportable pour elle. Elle était la moindre des esclaves. Et cela n'a pas gêné le Seigneur de s'humilier. Et cela n'a pas gêné Marie non plus. Ensuite, le verset 50 à 53, Dieu est magnifique pour les petits qui le craignent. Marie affirme que cette faveur qu'elle a eue n'est pas seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui craignent Dieu. Le choix de Marie, Dieu a renversé l'ordre établi. Ce sont les humbles et les pauvres qui vont recevoir en premier les biens spirituels. Il termine ensuite pour dire que Dieu est magnifique pour Israël. Magnifique pour ceux qui le craignent, magnifique pour elle et magnifique aussi pour Israël. Elle affirme que Dieu accomplira sa promesse à Abraham, le don d'une postérité nombreuse, d'un pays, que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Et on voit ici qu'il n'est fait aucune référence à la loi, mais seulement une référence à la grâce de l'élection dont avait bénéficié Abraham. Concernant le chant de Zacharie, le Bénédictus, parce qu'il commence par ce premier mot, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur donc qui a accompli ses promesses envers David et Abraham. Zacharie remercie Dieu pour son salut. C'est sauveur, mais le mot qui est, que vous trouverez traduit ailleurs, est salut. Salut de la nation d'Israël passe par le fils de David, selon les récits des prophètes. Et vous voyez la façon dont c'est tourné ici. Il dit que Marie, et on apprend ici que Marie est une descendante de David. Il n'est pas question de Joseph ici dans ce passage. Et si on dit parfois que voilà, Joseph et Marie étaient descendantes de David, eh bien on l'apprend ici par cette déclaration de Zacharie. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, par Marie. C'est le fils de David qui va exécuter ce salut tout seul dans les versets 71 et 72. Et ensuite, Zacharie indique que la finalité de ce salut, c'est un très beau passage. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu'il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et là, donc, cette promesse peut-être se réfère à Genèse chapitre 15, au moment où Dieu est passé entre le sacrifice des animaux partagé en deux. À ce moment-là, Dieu avait dit qu'un jour le peuple, il serait ramené dans ce pays. Et l'objectif de retour d'Israël n'était pas de l'installer confortablement dans un beau pays pour qu'il s'engraisse, comme disait Moïse. Mais non, le but, c'était que dans la présence de Dieu là, il puisse lui rendre un culte en sainteté et en justice tous les jours. C'était ça, la finalité. Et c'est cela qui allait s'accomplir maintenant. Béni soit le Seigneur qui a donné Jean, mon fils, comme prophète, au verset 75-76. Là, un tout petit instant, Zacharie se tourne vers s'adresse à son fils. Il va être prophète du Très-Haut. Mais il va avoir une mission particulière, vous avez vu. Verset 17, 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le peuple d'Israël attendait sans doute certainement un David qui arriverait avec son épée pour vaincre les Romains, pour les amener, délivrer et rétablir avec autorité la puissance d'Israël, sa souveraineté. Pas du tout. Ce qu'il fallait que le peuple comprenne, c'est que le Messie venait pour sauver des péchés. Le Messie venait pour sauver le peuple de ses péchés. Et c'était quelque chose qui était très important, que le peuple devait savoir. Ce n'était pas le fils de David conquérant qui allait s'approcher de Dieu. Béni soit le Seigneur qui accomplit sa promesse envers les nations également, 78-79. C'est un magnifique passage vers la fin où nous, on est compris dedans. On voit ça un petit peu parce qu'il parle du soleil levant. Et le soleil se lève pas que pour la nation d'Israël. Le soleil se lève pour toutes les nations aussi. On peut lire ce très beau passage vers lequel il nous renvoie ici dans le prophète Ésaïe, au chapitre 8, à la fin du chapitre 8. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Chapitre 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire les contrées voisines de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on dépose, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Comme la journée de Madian, toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, la faire venir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Béni soit le Seigneur qui accomplit ses promesses aussi envers les nations. Deux chants. Alors, quelle est l'intention de Luc? Pourquoi nous a-t-il laissé ce texte? Pourquoi a-t-il fait toute cette narration, rapporté ces chants? Je pense qu'il le dit lui-même, c'est pour fortifier notre foi. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, a indiqué Luc dans son introduction. Nous avons besoin d'entretenir notre foi pour qu'elle soit saine et qu'elle soit vigoureuse. Et c'est utile, ça a toujours été très important pour le peuple de Dieu. La place principale revient au salut. Le salut est dans tout notre texte ici. Et il ne dépend pas, on le voit, des œuvres de la loi. Les chants le font ramener à la promesse faite à Abraham. Et Jésus est présenté comme le roi dans le chant de Marie. Et il est présenté comme le sacrificateur dans le chant de Zacharie. Fortifier notre foi en ce qui concerne l'incarnation du Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu s'est fait homme. Cela ne s'est pas produit à sa naissance, mais cela s'est produit dès sa conception. Dès sa conception, dès qu'il était un embryon. Alors, ensuite, le psaume 139, hein, pour défendre le fait que l'humanité commence dès la conception dans le sein des mamans. Mais on pourrait utiliser aussi ici la rencontre entre Élisabeth et Marie. Ça n'en a fait aucun doute pour Élisabeth et elle parle remplie du Saint-Esprit à ce moment-là. Fortifier notre foi sur les valeurs qui sont mises en avant, la foi dans les promesses de Dieu, l'humilité devant Dieu et devant les hommes, la recherche de la sainteté et de la justice, la reconnaissance, dire merci et la louange. Voilà sur le terrain sur lequel ce texte veut nous apporter. Il indique aussi une continuité dans l'ancienne et la nouvelle alliance, une chaîne continue de croyants. On voit quels étaient les vrais croyants de l'ancienne alliance ici. Et Zacharie, Marie, Élisabeth ressemblent tellement, et Joseph ressemblent tellement aux personnages qu'on retrouve dans le livre des Actes. Et il est question de leur piété, il est question de leur soif de justice et de sainteté, plutôt que de la délivrance politique, leur persévérance dans l'attente du Messie, et la façon dont ils peuvent être remplis du Saint-Esprit, une chaîne continue de croyants entre l'ancienne et la nouvelle alliance, les promesses de Dieu qui sont toujours d'actualité. Trois fois, il est fait référence à Abraham, j'ai noté, à David également, aux prophètes. On trouve trois citations des Écritures, on est dans la continuité de l'ancienne alliance. Il n'y a pas de rupture. Et en plus, il y a, on le voit, un passage de relais entre les générations. Ceux, les plus anciens, Zacharie, Élisabeth, avec Marie, Joseph, génération suivante, et encore après, les enfants qui sont là, dans le sein de leur maman. Trois générations, avec un passage de témoin, un passage de relais d'une à l'autre. Ça va continuer après le passage de relais dans la suite des événements avec Anne et avec Siméon. Une autre intention, je présente les choses qui me sont venues à l'esprit, mais bien sûr, c'est rien du tout pour dire, ce que voulait dire Luc quand il a écrit, voilà quels étaient son objectif. C'est inspiré par le Saint-Esprit, mais il me semble ici qu'on a un appel à la joie et un appel à la louange. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Il y a peut-être plusieurs choses qui vont rester dans votre inconscient, dans tout ce qui a été dit ce matin, sur tout ce qui est venu, vous est venu à l'esprit en lisant ce texte. Mais s'il y a une chose qu'on peut prendre avec nous et se souvenir, c'est ce verset. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'est un verset clé pour la vie chrétienne. Avec ce verset, vous allez traverser toutes les épreuves. Vous allez continuer votre chemin. Se réjouir en Dieu, son Sauveur personnel. Tout est dit là, hein, tout un condensé, un résumé de la vie chrétienne à travers ces petites phrases qui sont lourdes de signification. Paul écrira 60 ans plus tard, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes, Philippiens 4, 4. Appeler à la louange, à la joie et à la louange. La présence, quand souvent dans la Bible, il y a des textes narratifs avec la présence, pouf, on a un chant qui surgit de notre texte narratif. Ça arrive plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et là, dans ce passage-là, on en a deux chants qui surgissent d'un texte qui raconte une histoire. Ni Marie, ni Zacharie n'étaient des chanteurs professionnels. Hein, ils n'étaient pas chantres salariés du temple. C'était pas des professionnels, mais ils ont composé et ils ont chanté ces chants. Et qu'est-ce qui nous empêche, nous, de les imiter à travers les circonstances que l'on traverse dans la vie? Quelle belle chose que de les mettre dessus des vers, construire des vers pour s'en rappeler. Et là, c'était un moment exceptionnel qu'ils vivaient tous les trois là. Bon, Joseph, ce sera plus tard qu'il va intervenir, mais là, tous les trois, ils vivaient des moments historiques. Et il en est ressorti des chants qu'ils ont composés à cette occasion. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil dans nos propres vies quand on traverse des moments de grande bénédiction? Mais David l'a fait en toutes circonstances quand il était au creux de la vague, ou quand il était dans les problèmes, dans les détresses, il composait des chants. Et qu'est-ce qui nous empêche de les imiter? Autrement, bien sûr, on peut aussi chanter des chants de louange, des cantiques. J'encourage, vous savez, peut-être vous le faites déjà, mais c'est un encouragement de de chanter dans la semaine des chants quand on est en train de faire ses activités, d'avoir toujours des chants sur les lèvres quand on se lève le matin, quand on se couche le soir. Et bon, au travail ça dérange un peu, mais on peut les chanter quand même dans sa tête. Nous privons pas de cette possibilité que on a des chants qui sont tout prêts, hein, qui sont déjà tout prêts pour toutes les circonstances, ou presque. Alors, je vous propose pour terminer qu'on chante un chant, comme on est dans la période où on veut se rappeler de la venue du Seigneur. J'ai choisi un chant qui s'appelle le 701, écoutez le chant des anges. On peut chanter joyeusement. Et puis si vous voulez en chanter un autre.